Enfin, l'été est arrivé. Il s'est fait attendre et ces dernières semaines, nous avons été très impatients en l'attendant. Nous en avons beaucoup parlé, de l'été qui tardait, de la chaleur qui manquait, et maintenant nous sommes heureux qu'il soit là. Dieu est comme l'été, il tarde à revenir, car il désire que nous tous, nous l'attendions. Et pourtant, nous ne sommes pas impatients. Nous ne nous en préoccupons pas, nous n'en parlons pas. Au fond, ça nous est indifférent. Pourquoi attendons-nous l'été et pas Dieu ? Nous allons sans doute avoir une réponse, car Pierre Raymond, notre pasteur pour ces trois cultes de Champel, va finir sa série de prédications sur la deuxième épître de l'apôtre Pierre par le troisième chapitre. Et il y est question du retour du Christ. Auditeurs de la première et paroissiens, ensemble préparons-nous à l'écouter, pendant que joue l'orgue sous les doigts de Didier Godel.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec chacun et chacune d'entre vous, et en particulier avec vous, auditrices et auditeurs, qui participez à notre culte par la pensée et la prière, grâce aux ondes de la radio. Oui, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, dans la communion d'un même esprit. Adorons le Seigneur. Célébrez le Seigneur, proclamez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples, chantez pour lui, jouez pour lui, redites tous ses miracles. Soyez fiers de son saint nom et joyeux, vous qui recherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez toujours sa face. Rappelez-vous les miracles qu'il a faits, ses prodiges et les jugements sortis de sa bouche. Vous, race d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. C'est lui, le Seigneur notre Dieu, qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours rappelé son alliance, mot d'ordre pour 1000 générations, celle qu'il a conclue avec Abraham, confirmée par serment à Isaac, celle qu'il a érigée en décret pour Jacob, alliance éternelle pour Israël. À cette louange du psaume 105, nous joignons la nôtre en chantant le même psaume au cantique 54. Cantique 54, strophe 1, 2 et 3.
Recueillons-nous dans la prière. Ô Seigneur, assiste-nous par ton esprit pour nous rendre des plus attentifs à ta parole. En effet, qu'elle ne retourne pas à toi sans nous avoir enrichis, sans avoir pénétré au plus profond de nous-mêmes. Amen. Lisons au psaume 90, les versets 1 à 4. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri. Avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, car tu as dit, « Fils d'Adam, retournez-y. » Oui, 1000 ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va, comme une heure de la nuit. Dans Ésaïe 65, les versets 16 à 19. Les détresses du passé seront oubliées. Oui, elles seront cachées à mes yeux. En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ainsi, le passé ne sera plus rappelé, il ne remontera plus jusqu'au secret du cœur. Au contraire, c'est un enthousiasme et une exultation perpétuelle que je vais créer. En effet, l'exultation que je vais créer, ce sera Jérusalem. Et l'enthousiasme, ce sera son peuple. Oui, j'exulterai au sujet de Jérusalem et je serai dans l'enthousiasme au sujet de mon peuple. Désormais, on n'y entendra plus retentir ni pleurs, ni cris. Dans Matthieu 24, les versets 36 à 44. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, sinon le Père, et lui seul. Tels furent toujours les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme, car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait ou l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre à la meule, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Nous chanterons au cantique 354. Le cantique 354, les strophes 1, 2 et 3.
Lecture de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 2 à 13. Mes amis, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, celui du Seigneur et Sauveur. Tout d'abord, sachez-le, dans les derniers jours viendront des sceptiques moqueurs, menés par leur passion personnelle, qui diront « Où en est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. » En prétendant cela, ils oublient qu'il existait il y a très longtemps des cieux et une terre tirant origine de l'eau et gardant cohésion par l'eau, grâce à la parole de Dieu. Par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu, les garde pour le jour du jugement et de la perdition des impies. Il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas, où les éléments embrasés se dissoudront et où la terre et ses œuvres seront mises en jugement. Puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quels hommes et quelles femmes devez-vous être? Quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu! Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu, jour où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Et nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habite. Frères et sœurs, ce matin, pour la troisième fois, nous venons d'entendre le message d'un chef d'église qui vivait au début du deuxième siècle de notre ère. Ce responsable de communauté, qui se place sous le patronage de l'apôtre Pierre, je vous le rappelle, écrite à des communautés ébranlées par l'influence de ceux qu'il appelle des faux docteurs, des maîtres d'erreur. Il leur écrit pour les mettre en garde et pour les exhorter à demeurer fidèles au témoignage des prophètes et des apôtres. Cette exhortation, d'ailleurs, l'auteur qui l'a déjà faite, la répète encore au début du passage que nous venons de lire. Mes amis, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, celui du Seigneur et Sauveur. Tout le passage qui suit cette exhortation est un mélange étonnant et contrasté, formé d'une part d'éléments venant de la tradition chrétienne, que notre auteur d'ailleurs retravaille assez librement, et d'autre part d'éléments empruntés à la tradition juive, celle de l'Ancien Testament et celle de ce courant religieux et littéraire à la fois que l'on appelle l'apocalyptique. Les apocalypses, d'un mot qui veut dire dévoilement, révélation, étaient des écrits visionnaires qui fleurissaient à l'époque du Christ et encore après. Des écrits censés dévoiler les secrets de l'histoire, son déroulement jusqu'à la fin du monde et jusqu'à l'avènement du règne final de Dieu. Les écrits apocalyptiques étaient aussi censés avertir les croyants, les mettre en garde, stimuler leur persévérance dans l'épreuve et la persécution, et enfin entretenir leur espérance. Précisons encore que l'on trouve des traces de cette littérature apocalyptique jusque dans le Nouveau Testament lui-même, à commencer par l'Apocalypse de Jean. Venons-en maintenant de plus près à notre texte, qui nous plonge d'emblée dans une atmosphère de fin du monde. Pour l'auteur, en effet, nous sommes déjà dans ces derniers jours, comme il le dit, où, entre autres calamités annoncées par les prophètes déjà, entreront en scène des sceptiques moqueurs menés par leur passion personnelle. Ce qui est une manière de dire que ces adversaires, ces moqueurs, se caractérisaient à la fois par leurs erreurs doctrinales et par leur inconduite. Et il est hors de doute qu'ici, ce sont les faux docteurs que l'auteur assimile à ces moqueurs annoncés par les prophètes qui doivent venir ébranler les croyants à la fin des temps. Mais en quoi consiste leur moquerie? En une question ironique, suivie d'une constatation-affirmation destinée sans doute à ruiner une foi déjà bien chancelante. Une question ironique d'abord. Où en est la promesse de son avènement? L'avènement du Seigneur, c'est ce que l'on appelle aussi sa parousie, sa venue, la venue du Seigneur à la fin des temps, l'instauration finale de son règne, ce règne dont les premiers chrétiens attendaient ardemment la proche, l'imminente réalisation. Leur moquerie, ensuite, elle consiste en une affirmation, elle aussi ironique. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. La moquerie fait mal, et dans le cas particulier, elle retourne le couteau dans une plaie déjà ouverte. N'est-on pas précisément dans un moment, à l'époque où écrit l'auteur, dans un moment, dans un temps où les pères, c'est-à-dire les premières générations chrétiennes, sont morts depuis bien des années, et où le règne espéré n'est toujours pas arrivé? Ils visent terriblement juste les adversaires, les sceptiques moqueurs, en posant une question que les croyants de ce temps-là devaient eux-mêmes se poser dans leurs moments de doute et de découragement. Dans ces moments, ils devaient se dire ce que l'auteur évoque encore un peu plus loin, le Seigneur tarde à tenir sa promesse. Il tarde à mettre fin aux injustices et aux souffrances présentes. Il tarde à instaurer le monde nouveau qu'il avait promis par ses prophètes. Où en est la promesse de son avènement? Il est évident qu'il n'y croit pas, les faux docteurs, les sceptiques, à l'avènement, à la parousie du Seigneur. Pas plus d'ailleurs qu'il ne croit à la création, mentionnée elle ici sur le mode ironique. Mais alors, à quoi croit-il? Ils le disent, partiellement du moins à travers les propos que l'auteur leur prête. Tout demeure dans le même état qu'au début de la création. Pour les faux docteurs, l'univers, tout, est permanent et immuable, sans commencement ni fin, sans création ni accomplissement, sans intervention première et dernière de Dieu. Et ces faux docteurs devaient sans doute professer parallèlement un salut uniquement actuel. Ce qui n'est pas totalement faux, relevons-le bien. Uniquement actuel, présent, fruit d'une illumination spirituelle et signifié concrètement par une grande liberté à l'égard des lois communes de la morale. Tout demeure dans le même état. Face à une telle mise en question de l'espérance chrétienne, l'auteur se sent alors obligé d'essayer de réfuter la thèse de ses adversaires. Il va alors montrer que si le monde demeure, s'il tient, s'il garde cohésion, c'est par la volonté expresse et la parole providentielle de Dieu qu'il a créé. De plus, Dieu a le pouvoir, dit de Pierre, de le juger, ce monde, comme il l'a fait d'ailleurs autrefois au moment du déluge. Et Dieu jugera le monde, non plus cette fois par un déluge d'eau, mais par un déluge de feu. Ce thème terrible, celui de la conflagration finale, de l'embrasement, voire de la fusion totale, joue un grand rôle, vous l'aurez remarqué, dans tout notre passage. Et il témoigne d'un radicalisme assez exceptionnel, dont j'ajouterai cependant qu'il est au service d'une espérance encore plus exceptionnelle. Cela affirmé, l'auteur tient à encourager, à rassurer aussi ses destinataires troublés par le retard de l'avènement du Seigneur et ébranlés par les moqueries des adversaires. Et il le fait à l'aide d'un double argument. D'abord, il cite librement le psaume 90 que nous avons entendu en partie tout à l'heure. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Mais tandis que le psaume 90 insistait sur l'opposition entre l'éternité de Dieu et la brièveté de la vie humaine, notre auteur oppose plutôt notre appréhension du temps à celle de Dieu. Sa mesure du temps n'est en aucune façon la nôtre. Donc un tel Dieu ne saurait tarder à tenir sa promesse. Mais l'auteur fait intervenir encore un autre argument. Un deuxième, attesté aussi ailleurs dans le Nouveau Testament. Il, c'est-à-dire le Seigneur, fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Admirable parole après que l'on vient d'évoquer le châtiment des impies. Lumière de l'Évangile dans cet Apocalypse. Et il dira même un peu plus loin dans un passage que nous n'avons pas lu ce matin, et dites-vous bien que la longue patience du Seigneur, c'est votre salut. Ce que nous percevons comme la non-intervention de Dieu n'est pas le signe de sa faiblesse ou de son indifférence, mais bien plutôt celui de sa patience et de son amour. Son prétendu retard est la condition même d'un élargissement du salut à tous les êtres humains. Dieu donne à notre temps d'attente d'être un temps fort, plein, qualifié notamment par la tâche missionnaire qui a pour but la conversion, le salut de tous. Ainsi, à la patience de Dieu qui est active invitation à la conversion doit correspondre de notre côté, l'active fidélité en attendant, comme dit de Pierre, la venue du jour de Dieu. C'est la certitude de cette venue, précisément, que l'auteur affirme avec force dans la fin de notre passage. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Jésus lui-même avait déjà employé cette image saisissante dans un temps et un pays où il était facile de percer les murs,
pour venir cambrioler les honnêtes gens. Et nous l'avons entendu dans le discours de l'Évangile que nous lisions tout à l'heure, dans le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce jour du Seigneur, on ne peut pas le prévoir. Spéculer sur sa venue, spéculer sur ses modalités, en calculer la date et ainsi essayer d'avoir prise sur lui et sur le Dieu qui en est le maître. Quels que soient les bouleversements dont il s'accompagnera, il sera, et ceci est essentiel, avènement d'une véritable recréation, cieux nouveaux et terre nouvelle, selon sa promesse. La promesse transmise au prophète Ésaïe et entendue ce matin, ou encore celle transmise aux voyants de l'Apocalypse. Ce jour du Seigneur, cet avènement totalement imprévisible, nous pouvons cependant l'attendre fermement et même, chose inouïe, en hâter la venue. Oui, en accélérer la venue. Ce qui est une façon admirable et imagée de dire la valeur que Dieu confère et que nous pouvons conférer au temps d'attente que nous vivons. C'est pourquoi l'auteur exhorte à cette active fidélité que nous évoquions tout à l'heure, à cette qualité, à cette sainteté de vie, qui pour lui découle de la foi, bien sûr, mais encore et surtout de l'espérance d'un monde nouveau, monde de justice, de paix et d'amour. Mais peut-être que ce matin, pour beaucoup d'entre nous, c'est moins le problème de l'avenir du monde, du moins tel qu'il est décrit ici, qui nous préoccupe. Oui, c'est moins ce problème que celui de notre propre avenir personnel ou celui de nos proches. Peut-être, et je pense ici aux plus âgés d'entre nous, ou à ceux et celles qui sont aux prises avec une injustice inexplicable, une souffrance intolérable. Peut-être que nous avons envie de dire, nous aussi, sur un autre registre, le Seigneur tarde. Il tarde à intervenir non seulement dans ce monde déchiré, mais aussi dans ma vie, à mettre fin à ma souffrance, à mon angoisse, à mon existence qui se prolonge interminablement. Il tarde à me reprendre à lui. Alors, il est bon, je crois, d'entendre encore le message de la deuxième épître de Pierre. Par-delà certaines expressions ou images apocalyptiques qui peuvent nous heurter ou tout simplement nous paraître étranges, à sa manière, ce croyant de l'ancienne Église veut nous rendre courage. Il nous rappelle que nous sommes tous et toutes dans la main de Dieu, portés par Dieu, aimés de Dieu, quoi qu'il arrive. Nous sommes portés par le Dieu de qui tout et tous tirent leur origine et à qui toutes et tous retourneront pour y trouver leur ultime accomplissement. Accueillis en Dieu, transformés, transfigurés, à l'image de son Fils. Un Dieu qui patiente, parce qu'il veut que tous soient sauvés, parviennent à la conversion, c'est-à-dire à une vie nouvelle, à un changement de vie, et qu'il nous engage à ses côtés pour cette tâche merveilleuse, pour cette œuvre de salut qui valorise ainsi notre temps et notre vie. Alors voyez-vous, frères et sœurs, notre temps vaut la peine d'être vécu. Non pas sous la menace de la catastrophe, non pas non plus dans la simple attente d'une consolation future, mais dans l'espérance d'un monde nouveau, sous la pesée de l'espérance, sous la promesse d'un total renouveau de vie. Ainsi, sous la promesse, sous la pesée de l'espérance,
Notre temps peut-il se remplir d'une incomparable présence, se charger d'une incroyable densité? Il y aura des jours qui, en valeur, en intensité, peuvent être plus importants aux yeux de Dieu, et pourquoi pas aux nôtres, que 1000 ans. Et même, dans l'instant qui passe, l'éternité de Dieu peut se trouver présente. Présence de l'éternité. Chaque fois que nous accomplirons un acte d'amour, à commencer par la prière d'intercession et à finir par la prière de louange, chaque fois que nous accomplirons un acte de solidarité, de justice, mais aussi de respect de la création, et il est bon d'y penser en ce temps où beaucoup vont partir en vacances. Certes, ce monde passe. Et peut-être, un jour lointain, finira-t-il, comme le prévoient certains savants, finira-t-il par disparaître. Mais lui aussi sera recueilli en Dieu. Et pour l'heure, c'est bien dans ce monde qui passe que la patience de Dieu nous demande et nous offre d'inscrire déjà les signes de l'espérance, les signes annonciateurs de son avènement, de l'ultime accomplissement. Nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Amen.
Nous allons maintenant accomplir l'acte de l'offrande et nous chanterons au cantique 389 les strophes 1, 2 et 3. Cantique 389, les trois strophes. Thank you. prions encore le Seigneur. Seigneur, viens ranimer et raffermir notre espérance. Aide-nous à dresser par notre vie des signes de ta venue. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent actuellement par des moments de désespérance, de doute et de souffrance, causés par la maladie, le deuil, la dépression, mais aussi l'oppression de toutes sortes, la guerre, les attentats. Sois avec ceux et celles qui, avancés en âge, trouvent le temps long et souhaitent entrer dans ta paix. Soutiens la fin de leur vie et remplis-la de ta présence. En ce début d'été, Seigneur, nous te prions encore pour tous ceux et celles qui vont pouvoir se reposer et refaire leurs forces, mais aussi pour toutes les personnes qui n'auront pas de vacances et pour celles qui se sentiront particulièrement seules durant ces mois d'été. Suscite à leur côté des présences aimantes. Tout cela, Seigneur, nous te l'apportons au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Cantique 380, strophes 1, 2 et 3. Cantique 380. Nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous. Allons dans sa paix. Amen.
Ainsi se termine cette série de trois cultes radiodiffusés du temple de Champel à Genève. Ce matin, Didier Godel était à l'orgue, M. Bernard Weber a lu les Saintes Écritures et le pasteur Pierre Raymond a poursuivi dans sa prédication la méditation de la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, les versets 2 à 13. À tous, célébrants et paroissiens, nous disons un chaleureux merci d'avoir accueilli si fraternellement les services des émissions protestantes de radio et de la première de Radio Suisse Romande dans les cultes de leur communauté. Les textes des trois prédications du pasteur Pierre Raymond ainsi que des cassettes, une par culte, vont être à votre disposition à notre adresse. Notre adresse, culte protestant, la première, Radio Suisse Romande, 1211 Genève 8. Mais attention, que les auditeurs qui en auront fait la demande de ces cassettes et de ces textes ne se troublent pas s'ils ne reçoivent pas immédiatement ces textes et ces cassettes. Nous leur demandons de patienter jusqu'à fin juillet. Notre secrétaire, Claire-Lise Binden, est partie en vacances, bien méritée. Et elle fera ses envois à son retour à la fin de ce mois de juillet qui commence demain. Dimanche prochain, les antennes du culte seront plantées à la Neuveville, dans le canton de Berne. Et c'est le pasteur Maurice Deveau qui sera notre pasteur et prédicateur. Alors, au revoir Champel, d'où cette transmission a été assurée grâce à la compétence technique de notre ami Jean Eguiman. Avec lui, Catherine Vitaud vous souhaite un très bon dimanche et de très belles vacances à ceux qui les prennent maintenant, dans le soleil revenu.